Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui édition du vendredi 6 octobre 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, 3 miliciens présumés ont été tués et 2 casques bleus légèrement blessés dans l'est du pays. Deuil national au Niger après l'attaque dans laquelle 3 soldats américains et 4 Nigériens ont péri. Manifestation de l'opposition au Kenya, la police disperse 3000 personnes au gaz lacrymogène. Le prix Nobel de la paix a été décerné à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et en magazine, nous ferons le point sur la présence militaire américaine au Niger. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Nathalie Barge pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. 3 miliciens présumés ont été tués et 2 casques bleus légèrement blessés ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo lors de l'attaque d'une base de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. Des précisions de Jacques Aristide.
L'attaque a été menée aux petites heures du matin par un groupe d'hommes armés contre ce camp de la MONUSCO près de Lubero Centre. D'après le général de division Bernard Comins, chef adjoint des casques bleus en RDC, les assaillants étaient probablement des Maï-Maï. L'administrateur du territoire de Lubero, Joe Bokele, qui se trouvait sur les lieux, a confirmé l'attaque et le bilan tel que donné par la MONUSCO. Le territoire de Lubero est situé à 300 km au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, où des groupes armés congolais et étrangers contrôlent plusieurs villages et s'y affrontent depuis plus de 20 ans. Depuis le début de l'année, des miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée congolaise dans le Nord Kivu et dans la province voisine du Sud Kivu, où des casques bleus ont été rapidement déployés le 28 septembre à Uvira après une attaque. Les Maï-Maï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la deuxième guerre du Congo, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Certains n'ont jamais désarmé.
Deuil national de 3 jours au Niger à compter de ce vendredi. Cela fait suite au décès mercredi de 4 soldats nigériens et 3 autres américains dont la patrouille était tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés à la frontière avec le Mali. Une attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Abdelrazak Idrissa.
Le communiqué qui annonce le deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement après cette attaque a été lu tard dans la nuit par la ministre de la Communication, Sani Koubra Abdoulaye, à la télévision publique.
En cette circonstance douloureuse, le gouvernement réitère ses condoléances les plus attestées aux familles des victimes et décrète un deuil de 3 jours.
Un peu avant, c'est le porte-parole du ministère de la Défense nationale qui donnait le bilan officiel toujours sur les antennes de Télé-Sahel.
Après d'intenses combats au cours desquels les éléments de la patrouille conjointe ont fait montre d'un courage et d'une combativité exemplaire, le bilan s'établit comme suit. FDS, 4 morts, 8 blessés. Partenaire américain, 3 morts, 2 blessés.
Le gouvernement nigérien s'est dit consterné par cette attaque qualifiée de terroriste jeudi matin par le président Issoufou Mahamadou qui a encouragé les forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent contre le terrorisme et salué l'engagement des partenaires américains aux côtés du Niger dans cette lutte. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et nous reviendrons en partie magazine sur la présence de l'armée américaine au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et Cameroun, les évêques catholiques des régions anglophones dénoncent la barbarie et l'usage irresponsable des armes à feu pour réprimer des civils dimanche dernier lors des manifestations visant à proclamer symboliquement l'indépendance de ces régions. Les évêques de la province ecclésiale de Bamenda se sont ainsi exprimés dans une déclaration obtenue par l'AFP. Certains fidèles qui tentaient simplement de se rendre à la messe ont été pourchassés dans leur maison, certains arrêtés, d'autres mutilés, tandis que d'autres encore, dont des adolescents sans défense et des personnes âgées, ont été tués par des tirs, notamment depuis des hélicoptères, accusent ces évêques. Au Kenya, environ 3000 manifestants mobilisés pour protester contre la commission électorale ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène ce vendredi à Kisumu, dans l'ouest du pays. Les États-Unis ont fait part de leurs préoccupations face à cette situation. Des précisions, Anastasie Tudiège.
Kisumu est un bastion de l'opposition. Tentant de s'approcher des bureaux de la commission électorale de la troisième ville du pays, située sur les rives du lac Victoria, les manifestants ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes et de tirs de semonces. La foule réclamait notamment le départ du directeur exécutif de la commission électorale, Ezra Chiloba. Quelques dizaines de manifestants ont profité de la confusion pour piller et incendier un supermarché, entraînant de nouvelles confrontations avec les forces de l'ordre. Les États-Unis ont fait part de leur profonde inquiétude face à l'aggravation du climat politique au Kenya, renvoyant dos à dos gouvernement et opposition. Malheureusement, les acteurs de tous les bords ont sapé ces dernières semaines l'autorité de la commission électorale et alimenté les tensions, a affirmé Heather Nauer, porte-parole du département d'État américain. Et Mme Nauer d'ajouter, les dirigeants et citoyens kényans doivent rejeter la violence et les forces de sécurité devraient utiliser la plus grande retenue dans la gestion des manifestations.
Corruption au Nigeria, cette fois-ci c'est au tour du président Muhammadu Buhari d'être éclaboussé par un scandale visant l'un de ses proches. Une lettre du secrétaire d'État au pétrole dénonce des malversations au sein de la compagnie pétrolière d'État. Dans ce document, il dresse une liste de 5 contrats d'une valeur de 25 milliards de dollars signés, dit-il, sans aucune connaissance ni approbation du conseil d'administration de la Nigerian National Petroleum Corporation. L'auteur de la lettre dit regretter le climat de peur, la non-transparence, l'humiliation, le tribalisme et les soupçons de corruption qui règnent toujours au sein de la NNPC. Muhammadu Buhari avait pourtant promis de mener la guerre contre la corruption.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le prix Nobel de la paix 2017, décerné à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN. La décision saluée par plusieurs dirigeants à travers le monde intervient au moment où le président américain Donald Trump pourrait renoncer à l'accord iranien sur le nucléaire. Abdourahman Dia.
La directrice de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires s'est dite honorée. Beatrice Finn a lancé un appel aux nations pour qu'elles interdisent maintenant l'arme atomique. C'est un moment de grande tension dans le monde, alors que les déclarations enflammées pourraient tous nous conduire très facilement vers une horreur sans nom. Le spectre d'un conflit nucléaire plane à nouveau, a-t-elle dit dans un communiqué. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a aussi salué l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne antinucléaire, avec laquelle l'Union européenne partage l'objectif d'un monde débarrassé des armes nucléaires. Le 21 septembre, Mme Mogherini avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de renégocier l'accord sur le nucléaire iranien lors d'une réunion des ministres des pays signataires, Iran, États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne. Un avis qu'est loin de partager le président américain Donald Trump, qui est également engagé dans un bras de fer avec Pyongyang sur le programme nucléaire nord-coréen.
Lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Les forces du régime de Bachar al-Assad sont entrées dans la ville de Mayadin, un des derniers fiefs des djihadistes dans le pays. C'est en tout cas ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres. D'après cette organisation, l'armée syrienne a bénéficié du soutien de l'aviation russe pour cette opération. Par ailleurs, le gouvernement français prédit que la bataille pour la reprise de Raqqa, ex-capitale du groupe État islamique en Syrie, va durer encore plusieurs semaines. En Irak, des dizaines de milliers de personnes, dont des dirigeants irakiens et kurdes, ont rendu un vibrant hommage à l'ex-président d'Irak, le kurde Jalal Talabani, lors de ses funérailles au Kurdistan. Vétéran de la cause kurde, Jalal Talabani est mort mardi en Allemagne à l'âge de 83 ans, après y avoir été hospitalisé d'urgence. Irak toujours, Human Rights Watch accuse des travailleurs humanitaires de fournir aux autorités irakiennes des listes de familles soupçonnées d'être liées au groupe État islamique. À la mi-septembre, des responsables des services de sécurité irakiens ont demandé à des organisations internationales et locales chargées de gérer des camps de déplacés de leur fournir des listes de prétendus proches de djihadistes afin de les surveiller. Migration vers l'Europe, Domenico Lucano, maire de Rias, un village pionnier dans l'accueil des réfugiés dans le sud de l'Italie, fait l'objet d'une enquête pour escroquerie dans l'utilisation de fonds publics, c'est ce qu'annonce la presse italienne. Dans les années 2000, ce maire de gauche a été l'un des premiers à parier sur l'accueil des réfugiés pour redonner vie à son village de 1800 habitants, afghans, érythréens ou irakiens, et s'y sont installés, repeuplant le village et son école, attirant même le tourisme et rouvrant des ateliers d'artisanat local, main dans la main avec des anciens du village. Iran, le vice-président Eshag Jahangiri annonce l'arrestation de son frère Mehdi à la tête d'importants projets touristiques en Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite la Minute Éco.
Lors de la réunion biannuelle des membres de la zone franc à Paris jeudi, les ministres des Finances se sont engagés à mobiliser plus de recettes fiscales pour faire face aux difficultés économiques. La question de la sortie du franc CFA n'a été que superficiellement abordée. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a évoqué la question à l'issue de la rencontre, disant qu'il appartenait aux pays africains d'en décider. Tenu à Bruxelles ce vendredi de la 4e édition du Rebranding Africa sur le thème « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques ». Ce forum comprend une session spéciale dédiée à l'innovation avec présentation de projets réalisés par des jeunes Africains. La journée se terminera par la cérémonie de remise des prix. Nommé par l'Union des banques arabes comme meilleur gouverneur de banque centrale, l'Égyptien Tarek Amer recevra son prix à Beyrouth le 23 novembre. Global Markets, le journal des institutions de Bretton Woods, lui a décerné le même titre en août dernier. La cérémonie de réception de ce prix est prévue à Washington le 14 octobre.
Allez, on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Mali et la Côte d'Ivoire ouvrent les hostilités pour les éliminatoires du Mondial 2018.
Tout à fait Morgane, coup d'envoi tout à l'heure à 19h temps universel au stade du 26 mars à Bamako. Les éléphants forts des 7 points n'ont qu'une seule unité d'avance sur le Maroc qui joue contre le Gabon à domicile demain samedi. Malgré l'absence de Gervinho, Seydou Doumbia, Max Gradel, Jean-Michel Seri, tous forfaits. Le sélectionneur Marc Villemotte rassure, nous allons faire plus que tout pour passer, a-t-il dit sur le papier. Les éléphants restent favoris face à des aigles qui n'ont remporté aucun de leurs 4 derniers matchs.
Duel à distance entre la Tunisie et la RDC demain.
Avantage pour les aigles de Carthage qui se déplacent à Conakry avec 10 points. Les léopards jouissent de 7 points et affrontent les chevaliers de la Méditerranée sur le sol tunisien. Mission périlleuse pour la RDC car une défaite des léopards combinée à une victoire des aigles qualifierait la Tunisie. Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibengué, le fait savoir au micro de notre radio partenaire Top Congo FM.
Il faut qu'on gagne, on n'a pas d'alternative. On va jouer un peu comme on a joué contre la Tunisie à domicile. La possession de balle et changement de rythme. Et en espérant ne pas flancher pendant les 15 dernières minutes. Ils ont des joueurs qui vont très vite. Quoi qu'il arrive, il faut que le mental soit vraiment supérieur à tout ça. On a peut-être une toute petite chance, mais on n'a pas le droit de la laisser passer.
Florent Ibengué au micro de Thierry Kambundi.
Dans le groupe D, la bataille se poursuit sur le terrain après des envolées juridiques à la FIFA.
Et oui, Morgan, la décision de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal donne un joker au Lion de la Teranga. Le Sénégal joue un match piège demain samedi à Praia face au requin bleu du Cap-Vert. Le Burkina devra battre les Bafana Bafana Johannesburg tout en misant sur une défaite du Sénégal pour entretenir l'espoir. L'attaquant des étalons Aristide Bansé y croit toujours.
Quand les moments sont plus difficiles, c'est là qu'on voit les étalons. On est motivé. On sait que notre qualification peut partir d'ici. Depuis la première journée jusqu'à maintenant, je pense qu'on est toujours resté en tête. Voilà, nous, on s'est dit que, bon, ils ont dit le match est à rejouer, mais n'ont pas dit que le Sénégal a gagné. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà, nous, on va faire notre boulot ici. Le reste, maintenant, on verra.
Et au micro de Zoumana Onogo.
Voilà, merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour avec le Niger qui observe un deuil national de 3 jours après la mort, mercredi, dans une embuscade, de 3 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens près de la frontière malienne. C'est la première fois que la présence de soldats américains a été signalée dans la zone, devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Pour une analyse, Jacques Aristide est entretenu avec Stéphanie Pizard du think tank américain RAND Corporation.
C'est un peu la première fois que la présence des États-Unis sur le terrain au Niger est perçue par les Américains de façon aussi claire. Je crois qu'il y avait une connaissance de l'investissement des États-Unis aux côtés de la France, aux côtés de l'ONU dans la région, mais cet investissement était peut-être vu de façon un peu plus théorique et plus lointain. Là, avec ces décès, cette tragédie, je crois qu'il y a une compréhension beaucoup plus claire vraiment de l'implication américaine et des enjeux pour les États-Unis.
Justement, quels sont ces enjeux?
Je pense qu'il y a une compréhension du risque que représente la stabilité régionale ces différents groupes qui opèrent dans la région, principalement à partir du Mali, mais qui maintenant opèrent vraiment également au Niger, également au Burkina Faso. Évidemment, il y a aussi toujours la crainte d'une connexion avec Boko Haram un peu plus au sud, au Nigeria, mais également au Niger. Donc tous ces groupes extrémistes, en fait, qui opèrent dans toute la région, qui traversent facilement toutes les frontières, qui attaquent les armées de ces différents pays, mais également les civils, également les étrangers, posent un problème de sécurité auquel les États-Unis, je pense, sont sensibles, même si ce n'est pas une région d'une grande priorité stratégique pour eux. Ils ont quand même un intérêt à ce que ces groupes soient éliminés ou en tout cas contrôlés et ne déstabilisent pas encore davantage la région.
Le président nigérien a récemment appelé la communauté internationale à se mobiliser pour doter la force du G5 Sahel, des moyens d'accomplir sa mission. Pensez-vous que les États-Unis peuvent être d'un grand apport à cette force antiterroriste?
Ils peuvent clairement donner un apport financier qui actuellement est clairement nécessaire pour que cette force puisse accomplir les objectifs qu'elle s'est fixés. Là, on est encore très en dessous des objectifs financiers et les États-Unis, s'il y avait une volonté politique, pourraient de toute évidence contribuer à cela et permettre à cette force de vraiment démarrer. Est-ce qu'il y aura une volonté politique? C'est une autre question. On voit dans différentes régions qu'il y a plutôt une tendance à actuel à un retrait plutôt qu'une augmentation du nombre d'interventions des États-Unis. Les discussions en cours quant au financement par les États-Unis de l'ONU par exemple, plus généralement l'institution d'organisation internationale, laissent supposer que ce n'est peut-être pas le bon moment, les bonnes circonstances pour attendre un investissement financier plus important de la part des États-Unis. Cela étant dit, peut-être que les pertes humaines de ces derniers jours vont attirer l'attention sur cette région et peut-être amener un peu cette question un peu plus haut dans le débat.
Stéphanie Pézard de la RAND Corporation à Washington DC.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h temps universel sur VOA Afrique pour votre émission À votre avis. On va discuter du prix Nobel de la paix attribué à la campagne internationale contre le nucléaire ICAN. La directrice de l'ICAN estime que le monde est plus que jamais sous la menace d'un conflit nucléaire. Partagez-vous son avis et que proposez-vous pour lutter contre la prolifération nucléaire dans le monde? Venez en discuter en donnant votre avis à 18h TU sur VOA Afrique et voafrique.com. Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
33 militants du mouvement Lucha, lutte pour le changement, arrêtés dans l'est de la RDC pour avoir réclamé la convocation de la présidentielle en vue d'élire le successeur du président Joseph Kabila, sont à nouveau libres. Le parquet de grande instance de Goma les a libérés tard dans la nuit du 3 octobre sans les avoir inculpés. Solange Nyamouissa a joint à Goma Ghislain Mouiwa, un membre de la Lucha.
Ils ont été reprochés d'avoir manifesté sans autorisation alors que nous sommes dans des régimes de formation. La Lucha avait déposé une lettre officielle pour informer l'autorité qu'il y aura une manifestation pacifique qui sera organisée pour exiger à la CENI de convoquer l'électorat pour les élections présidentielles. Parce qu'il faut qu'avant 90 jours que les délais arrivent, la CENI doit normalement convoquer l'électorat pour les élections présidentielles. C'est comme ça que lorsque nous étions dans une manifestation pacifique jusqu'au bureau de la CENI, 33 militants de la Lucha et d'autres organisations avaient été arrêtés pendant cette manifestation et ils ont été libérés les mardis de cette semaine.
Sur quelle base ils ont été libérés?
Selon le parquet près du tribunal des faits de Goma, ils ont été relaxés purement et simplement parce que le chef du parquet a estimé qu'il n'y avait pas de sanctions. Il a été découvert également que le maire de la ville avait donné une lettre au parquet disant qu'il a interdit la marche et que cela devrait amener à ce qu'il soit reproché des rébellions et des provocations à la désobéissance aux lois. Alors que ce n'était pas vrai, c'était faux, parce que le maire de la ville n'a pas ce pouvoir d'interdire une manifestation. C'est comme ça qu'ils ont été libérés purement et simplement sans accusation, sans effraction et sans poursuite judiciaire.
La CENI a dit qu'en raison des violences dans le Kasaï, les élections ne pourront pas avoir lieu d'ici la fin de l'année. Quelle est votre réaction?
Encore une fois, une provocation à l'égard de la population parce que le retard du fait qu'il n'y a pas eu l'enrôlement au niveau des Kasaï a été causé par les sécurités et le gouvernement est responsable de garantir la sécurité sur toute l'étendue de la République. Et pour nous, la CENI doit tout faire pour finir l'enrôlement au Kasaï avant la fin du mois de novembre, afin d'organiser les élections présidentielles parce que nous croyons que s'il y a la volonté, on peut tout mobiliser et aider à sortir il y a des élections avant la fin de cette année. S'il n'y a pas des élections, alors nous allons tout faire pour organiser des grandes manifestations afin de tasser le pouvoir de Kabila. Parce que nous avons vu qu'il n'y a pas de volonté au niveau du régime actuel et que nous devons tout faire maintenant, non pour exiger les élections, mais désormais pour exiger ce départ. Parce qu'on a compris qu'il y a une mauvaise volonté de la part du président Joseph Kabila.
Voilà, c'était Ghislain Mouiwa, un membre de la Lucha, la lutte pour le changement, joint à Goma, en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
En République centrafricaine, forte affluence des ressortissants de la République démocratique du Congo dans les quartiers sud de Bangui. Inquiète de ce flux, la police a lancé ce matin une vaste opération de contrôle dans la capitale. Près d'une centaine d'étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés ce vendredi. Un reportage de Freeman Sipila.
Au total, 90 ressortissants étrangers, pour la plupart des Congolais de la République démocratique du Congo, sont tombés dans les filets des forces de sécurité intérieure au premier jour de cette opération. Selon les autorités, entre janvier et septembre 2017, plus de 5000 Congolais de la RDC sont entrés illégalement sur le territoire centrafricain. L'opération vise donc à maîtriser le flux migratoire. Jean-Claude Zoubanda, chargé de mission au ministère de la Sécurité publique.
Ce sont plus les Congolais démocratiques qui sont là. Il y a eu de janvier jusqu'à nos jours plus de 5000 entrées et que nous avons constaté que moins de 2000 sorties. Alors il est de notre devoir de savoir qui est sur le territoire et au besoin il faut se confirmer à la législation sud-africaine. Au fur et à mesure nous avons examiné leur cas. Ceux qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire séjour irrégulier, certainement ils seront reconduits à la frontière. Et ceux qui pensent être avec nous, car nous sommes toujours hospitaliers, et ils vont régler la situation administrative au niveau de l'immigration et ils seront là.
Depuis presque deux années, on note une présence massive des ressortissants de la République démocratique du Congo dans les secteurs sud de Bangui et dans les villages longeant le fleuve Ubangi, ligne frontalière entre la République centrafricaine et son voisin congolais. Dans le quartier Pétene 1, le chef Sylvain Ondrazoyen en a déjà répertorié plusieurs centaines.
Dans mon quartier, leur nombre a augmenté. Par exemple, en 2014, ils étaient 182. Et cette année, en 2017, après un recensement que j'ai organisé, ils sont 354. Donc on retrouve 8 à 10 personnes, voire plus.
tous dans une maison.
Cet afflux non seulement des Congolais, mais aussi des Nigérians, Camerounais et Rwandais inquiète les Centrafricains, encore à l'esprit l'image des atrocités commises par des mercenaires étrangers durant la crise.
Nous avons constaté qu'au travers de l'histoire de notre pays, la crise qu'on a endurée, la présence des étrangers fait partie des raisons de tout ce que nous avions connu comme cataclysme sécuritaire.
Nous aimons bien que les étrangers viennent chez nous, mais il faudrait que les lois et les règlements applicables sur le territoire centrafricain par rapport à l'entrée et la sortie des étrangers soient respectés.
Nous voyons que vraiment, ça c'est ce qui peut accentuer beaucoup plus l'insécurité et nous connaissons pas l'identité de ces gens-là qui viennent. Et peut-être ils sont en train d'être traqués quelque part et puis ils fuient pour s'installer sur notre territoire. Ça c'est un danger.
Ces entrées illégales sont même déplorées par certains étrangers qui vivent depuis plusieurs années sur le territoire centrafricain. Ce ressortissant congolais de la RDC en situation régulière a déjà passé 28 ans à Bangui.
J'ai fait presque 28 ans ici à RCA. Je suis venu avec une bonne condition. Tous les chefs de quartier me connaissent. J'ai fait presque 3 impôts pour 3 ans. Je vis sous contrôle administratif. Là où je suis, les chefs de quartier me connaissent avec toute ma famille.
Qu'est-ce qui favorise l'entrée illégale massive des ressortissants étrangers en Centrafrique? Selon les autorités, la crise qui a secoué le pays n'a pas permis la sécurisation des frontières. À en croire certaines sources, ce phénomène est dû en partie à la corruption. Les forces de l'ordre, au lieu de faire leur travail, se livrent plutôt aux raquettes. Fumansi Pila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
À Las Vegas, dans le Nevada, la semaine prend fin sur une note positive après avoir commencé par un cauchemar lorsqu'un homme perché au 32e étage d'un hôtel a tiré sur 22 000 personnes assistant à un concert. Vous connaissez le bilan, il est lourd, 59 morts et plus de 500 blessés. La note positive ce vendredi, c'est le désir des habitants de ne pas se laisser vaincre par la peur et l'amertume. Gabi Dorcy nous offre un exemple.
À environ 15 minutes de la scène du carnage, un jardin spécial aura pour but d'aider les survivants et la ville dans le processus de guérison. Une plante pour chacune des victimes. En une journée, ce jardin s'est développé grâce aux dons multiples et à la participation active de plusieurs volontaires. Je fais mon possible pour les aider, car ces vies ont du prix à mes yeux, dit Jeff Peterman. C'est ça la motivation, rien que de l'amour. Pour Alexander Zorensky, travailler ici est un moyen d'oublier les horreurs de la nuit du 1er octobre. Je ne faisais qu'aider les autres à ne pas se faire piétiner. Le souvenir de cette tragédie est encore vif. Par exemple, l'appel à ses parents après avoir emmené les premières victimes à l'hôpital.
Hey, I'm alive.
Je suis vivant et j'ai pu venir en aide à beaucoup de personnes qui n'ont pas été aussi chanceuses que moi. Et aussi à mes amis. Parmi ceux préposés aux soins de cet espace, on entendait ce dicton « Celui qui plante un arbre, plante de l'espoir ». L'arbre de la vie est la pièce maîtresse de ce jardin. Une journaliste de la VOA a observé comment les visiteurs peuvent concevoir une tuile en céramique formant une mosaïque en forme de cœur, afin que chacun aide à reconstituer le cœur de Las Vegas. Et ses habitants de la zone ne sont pas les seuls à prendre part au processus de guérison de la ville. Le restaurant mexicain Nacho Daddy est connu pour ses coups de scorpion, un véritable scorpion dans un coup de tequila. Mais maintenant, il est célèbre pour la livraison de 1000 repas gratuits aux premiers intervenants depuis la tuerie de dimanche dernier. Celui qu'on écoute, c'est le président de Nacho Daddy, Paul Haimas, qui dit « Nous faisons des livraisons pour leur apporter de la nourriture. » Et à part ça, les premiers intervenants leur ont dit « Si vous avez faim, prenez un répit, entrez ici et nous allons vous nourrir et votre famille. » Et cela s'est développé comme ça. Jeudi, la police a remis les corps recouvrés sur la scène du crime à leur famille. Maintenant, les proches sont confrontés à un autre fardeau, la planification d'un enterrement. Le directeur des pompes funèbres, Ryan Bowen, fait un don de service d'incinération gratuit. Il a également créé une page GoFundMe, recueillant des fonds que les familles des victimes peuvent utiliser dans n'importe quelle maison funéraire.
Oh,
ce sont mes gens, dit-il. Je veux dire, c'est ma ville. Cette tragédie a... Tu sais quoi? Je ne veux pas l'appeler une tragédie. Je veux l'appeler un crime, parce que c'est exactement ce que c'était. Ce crime a touché chaque personne dans cette ville.
Dans la région de Las Vegas, beaucoup d'entreprises prêtent main forte. Certains services sont pour aujourd'hui, d'autres jusqu'à la semaine prochaine. Et d'autres encore contribueront à la guérison pour toute une vie. Ce dont beaucoup dans cette ville auront besoin.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Morgane Viriec. Ainsi va le monde aujourd'hui.